Interception, ce dimanche 8 mars, rend hommage aux femmes. Les femmes que l'on cache, que l'on enferme, que l'on empêche à l'autre bout du monde et à côté de chez vous. L'autre bout du monde, c'est l'Afghanistan. Ça commencerait presque comme une bonne nouvelle. Les Afghans redécouvrent leur pays. Ils font du tourisme. Les Afghans, oui, pas les Afghanes. Mais qui sommes-nous, nous, en France, très loin des talibans, quand nous avons des femmes qui n'ont pas de compte en banque à leur nom, pas de carte bleue, aucune autonomie sur les dépenses de leur ménage, parce que leur conjoint l'a décidé? Ça s'appelle la violence économique et ça fait aussi mal que les coups.
Interception. Fabienne Synthès sur France Inter.
Au début, vous savez ce que c'est, hein? On est amoureux, ce qui est à toi est à moi, on va pas se disputer pour des histoires d'argent, mettons tout sur le conjoint. C'est la première erreur. Et puis c'est lui qui s'occupe des impôts, des allocations, qui insiste pour les deux signatures sur le prêt de la maison, qui suggère aussi d'arrêter de travailler pour les enfants. C'est lui qui a la carte bleue, c'est lui qui gère tout, qui contrôle tout. Si t'as besoin d'argent, t'as qu'à me demander. Savez-vous combien de femmes en couple n'ont pas de compte bancaire? 1 sur 4. Savez-vous combien de femmes disent subir des violences économiques? Eh bien voilà.
25% des femmes disent être victimes de violences économiques au sein de leur couple si vous n'avez pas de ressources financières. Et si en plus de ça, vous avez été progressivement éloigné de votre entourage, de votre famille, au moment du départ, ne pas avoir de ressources en propre est clairement un frein pour les femmes.
Ces chiffres, ils viennent de sondages ou de remontées d'associations. Aucune donnée officielle, mais de multiples témoignages de femmes qui, quand elles ont réussi à partir, n'ont rien. Pas un centime, zéro.
Voilà, c'est là, on voit la plaque avocat à la cour.
C'est dans le bureau de Lucie Rhin que commence le reportage de Mathilde Dehimy. Lucie Rhin est avocate, spécialisée dans les violences sexuelles et sexistes. Elle reçoit Évelise, qui vient de quitter son conjoint.
Vous allez bien?
Ouais, ça va?
Je vous en prie, entrez.
Je vais aller prendre votre dossier d'ailleurs. Donc moi, je vais appuyer par rapport à la dernière fois beaucoup sur les violences économiques dont on avait parlé.
Je m'appelle Évelise, j'ai 34 ans. J'ai deux enfants, une petite fille de 6 ans et un petit-fils mignon comme tout de 2 ans.
Tout petit.
Ouais.
Il y a votre audience pénale qui aura lieu cet été. Concernant les violences que vous avez subies, je précise, c'est les violences physiques. Concernant le contexte un peu financier, comment ça se passait pendant votre relation? Est-ce que vous travaillez?
Alors, quand j'ai rencontré mon ex-compagnon, c'est vrai que je travaillais, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas des enfants, donc j'étais indépendante. Et petit à petit, je me suis retrouvée dans cette relation que pour moi était parfaite. Enfin, j'ai rencontré le prince charmant, qui prenait soin de moi, qui me faisait découvrir les choses, voyager, etc., etc. Mais j'ai vite compris en fait que j'étais surveillée. À l'époque, je travaillais avec des enfants à domicile, donc j'ai arrêté de travailler et les choses se sont enchaînées, je suis tombée enceinte. Petit à petit, je suis devenue complètement dépendante de cette relation, donc j'avais plus de carte. Et il fallait demander de l'argent pour, je sais pas, même aller acheter du pain, quoi.
Mais chaque moindre dépense?
Oui.
Donc vous n'aviez plus accès aux moyens financiers. Après la séparation, comment ça s'est passé?
On ne s'est jamais vraiment séparés. C'est-à-dire à chaque fois, je manifestais l'envie de partir. Alors c'est toujours la même question, comment je vais faire? On se retrouve dans une prison. Quoi qu'on fasse, on est piégé.
C'est quelque chose que je vais, moi, évoquer. Évidemment, dans le cadre de la plaidoirie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le contrôle coercitif.
Non, pas vraiment.
Ouais. Le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui permet à l'auteur des violences de garder en fait la mainmise sur la victime par des rapports de domination, de contrôle. Et ce qui en fait partie, c'est clairement les violences économiques. Et donc là, il n'y a pas longtemps, monsieur, il est enfin parti du domicile au niveau financier. Du coup, maintenant, ça se passe comment? Il contribue un petit peu à la vie familiale financièrement?
J'ai fait mes démarches auprès de la CAF pour signaler justement ma séparation. Et comme on avait un compte commun CAF, et c'est lui qui gérait tout, lui il gérait de A à Z tous les papiers administratifs, c'est lui qui le faisait. Et bah, il s'est avéré que monsieur, il est rentré dans le compte CAF encore, il a tout changé, comme quoi on était en couple encore. L'argent des enfants, je l'ai pas vu. Il a pas payé le loyer, donc je dois me débrouiller avec 450 euros. Parce que moi, je suis en congé parental, donc je touche 450 euros. Je vais pas très loin, hein. Je demande de l'argent à ma famille. Mais bon, ils peuvent pas non plus tout donner. Donc je suis très limitée, j'essaie de faire attention. Et puis c'est très compliqué de refuser, je sais pas, une crêpe ou un pain au chocolat à ses enfants. Donc je me retrouve dans une situation où je sais pas quoi dire à ma fille qui a 6 ans, que voilà, parfois je pourrais pas lui acheter un petit livre. Ou je le vis très mal, cette situation.
Je comprends. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose? C'est ce que j'allais vous demander.
Aujourd'hui, quelle est votre situation et vous vivez avec combien?
Alors aujourd'hui, je vis avec mes 450 euros. J'ai un loyer de 1300 euros. J'ai l'école privée de ma fille de 300 euros par mois. J'ai la crèche de mon fils, j'ai l'électricité, j'ai la nourriture, j'ai le téléphone, j'ai la mutuelle, j'ai tout ça. Et j'ai déjà une dette de loyer de 2000 euros.
En fait, les violences économiques, on en parle finalement depuis pas si longtemps. Il n'y a pas de définition, je veux dire, c'est pas dans le code pénal. Hein. Ça veut dire que jamais un auteur n'est poursuivi pour des violences économiques. Ça va avec les autres violences. Donc voilà. Mais c'est quelque chose donc, qui n'est pas défini juridiquement. Tout ce qu'elle vous dit quand on regarde la plainte, ça ne ressort absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que je l'appuie dans ma plaidoirie, parce que finalement, un jugement pénal, il a la plainte, le juge. Donc l'idée, c'est quand même de lui donner d'autres éléments. Et c'est vraiment dommage que finalement, on ne s'intéresse pas un petit peu plus à ça. On reste en contact par rapport à l'ordonnance de protection et évidemment la procédure pénale.
Merci, maître Vray.
Bonne journée.
Merci.
Un des moments les plus délicats en termes de violence économique, paradoxalement, c'est après la séparation. C'est là que certains conjoints organisent leur insolvabilité pour éviter d'avoir à payer notamment les pensions alimentaires. On est dans le 19e arrondissement de Paris, c'est là qu'Emma et ses filles ont trouvé refuge après avoir fui son conjoint violent. Vous êtes arrivée quand ici?
En 2022.
Vous êtes avec vos deux filles, c'est ça?
Oui. Ma fille, 23 ans. Ma deuxième fille qui a 17 ans. Voilà, c'est un soulagement d'avoir cet appartement, un salon et deux chambres. Je me sens libre et en sécurité.
Quand vous êtes arrivée ici, vous êtes arrivée avec quoi en bagage?
Presque rien. Quelques vêtements et des papiers. Et rien d'autre.
On peut s'installer à votre
oui,
table?
Oui. Alors, j'ai 51 ans et je travaille dans la petite enfance. Je suis salariée, fonctionnaire territorial. C'est pour mes enfants que j'ai décidé de partir. On a été obligé de quitter le domicile pour sauver notre peau.
Est-ce que votre mari a été condamné? Est-ce que le divorce est prononcé déjà?
Il y a eu un jugement correctionnel le 30 janvier 2026. Mon mari a été condamné de 6 mois de sursis et c'est tout.
Pour vous avoir frappé ?
Oui, frappé, des violences verbales.
Et psychologiques.
Et psychologiques aussi.
J'imagine que maintenant vous êtes soulagée. Est-ce que tout est terminé de votre côté ?
Tout n'est pas terminé. Nous étions tous les deux salariés. Donc, monsieur avait en charge le crédit immobilier que nous avions acheté ensemble. Il m'a demandé de signer le prêt et donc il payait le crédit. Moi, je payais les charges et les courses et tout ce qui concernait les vêtements des enfants et la cantine, etc. Et il a arrêté de payer pour que moi, je paye ce que lui, il ne paye pas. Donc, voilà. C'est l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Et ça vous condamne à quoi ?
Ça me condamne à payer le crédit immobilier.
T'as fait combien ?
C'est 31 380,44 euros, plus 1679 et plus 2500 euros à payer à la banque.
Vous l'avez cette somme ?
Pas du tout. C'est vraiment, vraiment injuste. Il me le disait aussi. De toute façon, tu ne pourras jamais partir. Tu ne vaux rien. Tu ne pourras pas vivre sans moi. Tu seras à la rue. Tout ça, il me le disait. Il contrôlait tout.
Est-ce qu'il y a des conséquences pour votre santé et pour votre vie de famille, sur vous, vos filles ?
On est toutes les trois sous antidépresseurs. On était tombés, on s'est relevés et là, on retombe. Et se relever, c'est très, très dur. Très, très dur.
J'ai une dernière chose à vous montrer, si vous voulez bien. J'ai imprimé pour vous ce qu'on appelle le baromètre des violences économiques. Ça a été fait par deux spécialistes de la question, Les Glorieuses et Oseille et compagnie. Ils ont repris le principe du violentomètre. Donc, vous voyez, il y a le vert, le orange et le rouge. Est-ce que, alors je vous l'ai mis à l'envers, est-ce que je peux vous demander de nous lire les lignes et puis de regarder un peu où est-ce que vous vous situiez dans ce baromètre-là.
Gère seule l'épargne du ménage sans vous informer. Là, c'était dans le rouge. Dépense pour lui de l'argent consacré au foyer, aux enfants, oui aussi. Contrôle vos dépenses tout en cachant les siennes, oui. S'oppose à ce que vous ayez un compte bancaire personnel, oui. Bloque vos cartes bancaires sans vous le dire. Ben, c'est le cas parce qu'il voulait le faire, mais je n'ai pas voulu qu'il fasse et il n'a pas réussi. Voilà.
Vous étiez dans quelle couleur, là ?
Entre l'orange et le rouge.
Vous auriez pensé à ça avant ?
Non, pas vraiment. Mais j'avais réalisé que j'étais sous l'emprise dans tous les sens du terme.
Bonjour, c'est France Inter.
J'arrive tout de suite, je descends courir.
Merci.
Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver ?
Merci, non, c'est bon.
Pour sécuriser.
Oui, on est assez sécure, on a des caméras, etc. Porte blindée, donc...
On est dans un bâtiment anonyme près de Paris. C'est le siège de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui représente plus de 80 associations d'aide aux femmes en France. C'est aussi là qu'on s'occupe de la ligne d'écoute nationale, le 3919, ligne qui reçoit régulièrement des appels malveillants, d'où des conditions de sécurité particulières.
Oui, bien sûr, le 3919, c'est la ligne d'écoute, d'information et d'orientation dédiée aux femmes victimes de violences. Et donc là, vous êtes chez nous.
Donc on a rendez-vous avec votre directrice.
Bonjour, Mine Gunbay, je suis directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère notamment le 3919.
Aujourd'hui, vous avez en moyenne combien d'appels ?
Les chiffres 2024 nous ont montré qu'on avait eu plus de 100 000 appels.
Est-ce qu'il existe beaucoup de statistiques sur les violences économiques ? Parce que j'imagine que quand les femmes vous appellent, ce n'est pas un mot qui sort de leur bouche en premier, elles ont d'autres priorités.
Dans les statistiques, on a 25% des femmes disent être victimes de violences économiques au sein de leur couple. Les violences économiques sont le terreau des violences et de la domination masculine. Très clairement, si vous n'avez pas de ressources financières et si en plus de ça, vous avez été progressivement éloigné de votre entourage, de votre famille, au moment du départ, ne pas avoir de ressources en propre est clairement un frein pour les femmes.
Ça veut dire que beaucoup de femmes sont obligées de rester plus longtemps qu'elles ne l'auraient souhaité avec leur conjoint pour ces questions financières.
48% des femmes nous ont dit dans cette enquête de l'IFOP qu'elles n'auraient pas les moyens de quitter le foyer sans aide extérieure. 30% des femmes n'ont pas de ressources en propre. Donc ça veut dire que quand on n'a pas de ressources en propre, eh bien si on veut partir, on doit pouvoir juste compter sur soit le soutien des amis, soit de la famille, soit de dispositifs associatifs qui eux aussi sont en peine.
Et ça, est-ce que les banques ont un rôle à jouer ?
Alors, je pense que l'ensemble de la société a un rôle à jouer. Les banques jouent un rôle à nos côtés parce que comme nous avons des structures d'hébergement et des femmes qui sont hébergées à cet endroit-là et qu'elles n'ont parfois pas de compte en banque en propre, eh bien, ils nous aident à pouvoir permettre à ces femmes, durant une année, d'ouvrir un compte bancaire gratuitement et d'aller vers de l'autonomisation en étant accompagnées.
On va vous laisser, merci beaucoup. Je sais que vous avez un rendez-vous très important là qui vous attend.
Oui, bah, cet après-midi, justement, nous avons une audition sur la question du coût des violences faites aux femmes en France.
Où ça ?
À l'Assemblée nationale.
Auriez-vous, madame, quelque argent, fruit de vos revenus, à placer ?
Pardon, monsieur.
Bonjour, madame.
Je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse ?
Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale, à moins que vous soyez femme séparée.
Sachez que cette autorisation ne sera plus nécessaire et que le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Vous, monsieur, vous resterez, selon le projet de réforme, le seul administrateur de la communauté et vous aurez à répondre de la façon dont vous aurez géré le budget du ménage.
Je vais vous laisser vous présenter.
Daniel Ball, je suis président de la Fédération bancaire française et du Crédit Mutuel.
Il y a 65 ans de ça, les femmes ne pouvaient pas se présenter au guichet d'un Crédit Mutuel.
Oui, jusqu'à la loi du 13 juillet 1965, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte elle-même. Une femme célibataire, veuve, le pouvait, mais une femme mariée perdait ce droit d'ouvrir un compte. Heureusement, donc ça fait un peu plus de 60 ans maintenant que c'est de nouveau possible, mais la réalité, c'est qu'on estime qu'il y a toujours une femme sur quatre qui n'a pas de compte à son nom ou qui en a un, mais qui ne l'utilise jamais. Ce qui peut évidemment amener quelques difficultés si, au sein du couple, les choses ne se passent pas bien.
Comment vous l'expliquez ?
Bah, je l'explique par des raisons très simples. C'est qu'aujourd'hui, un compte joint, c'est très commode. C'est très commode pour un ménage d'avoir un compte joint. Lorsque les deux salaires arrivent sur ce compte, lorsque les dépenses du ménage sont vraiment réalisées par ce compte, ça se passe bien. Et le compte joint, nous le mettons bien entendu en avant, mais nous devons le mettre en avant tout en rendant attentif au fait que ça signifie quand même une certaine perte d'autonomie.
Est-ce qu'il y a une réflexion engagée de votre part, toutes les banques justement, pour proposer systématiquement des comptes individuels séparés qui convergent vers le compte joint ? Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit-là ?
On n'en est pas à dire que le compte joint ne doit plus être utilisé. C'est effectivement quelque chose de pratique. Par contre, aujourd'hui, ça doit être un conseil de dire « mais Peut-être est-il bon également, et on le donne pour les deux conjoints, d'avoir votre propre compte, parce qu'il y a peut-être des dépenses qui vous concernent personnellement et qui ne concernent pas le ménage. Donc c'est un travail à faire, avec beaucoup de doigté, de psychologie évidemment, car il ne s'agit pas non plus de heurter nos clients sur le sujet. C'est à eux simplement d'être rendus attentifs et à eux ensuite de décider.
Ça a des conséquences aussi pour la banque. Ça entraîne des situations de surendettement, de difficultés à rembourser certains prêts engagés.
En réalité, aujourd'hui, lorsque un couple co-emprunte, évidemment, il a la signature des deux époux. Après, vous avez parfois des situations assez anormales et sur lesquelles on essaye d'éviter d'aller, c'est qu'un prêt accordé à l'un des conjoints soit débité sur un conjoint. Donc là, effectivement, ça revient pour l'autre membre du couple d'accepter le débit, alors même qu'il n'a peut-être pas accepté le prêt. Mais ça, c'est dans des hypothèses, malheureusement, qui arrivent. Plus généralement, pour ce qui concerne Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a vraiment voulu aller au bout de la démarche en mettant en œuvre une offre spécifique, un compte gratuit que le conjoint ne peut pas connaître. Parce qu'on se débrouille pour que les extraits de compte n'arrivent pas au domicile. Et cette offre-là est un vrai levier pour permettre l'accès vers une autonomie financière.
On va où, là ?
Là, on va avec l'équipe du e-learning sur les violences économiques.
E-learning, donc c'est formation.
Formation, tout à fait. Formation, violences économiques.
Bonjour.
Nous sommes là.
Bonjour.
Enchantée.
Mathilde
de France Inter.
On est en train là, de réfléchir justement au module de formation violences économiques qui sera déployé dans tout notre réseau en 2026 pour nos 25 000 conseillers.
Et donc cette formation, elle est pensée par Audrey Tepp, Anne Lepage et Charline Sérol. Elle travaille aux ressources humaines et au développement stratégique du Crédit Mutuel. Et leur mission, c'est de mettre en place un atelier de 30 minutes pour sensibiliser les banquiers.
Donc, attends, là tu as cliqué, tu es dans le module, le deuxième module, hein, c'est oui. Ça. Donc là, on est en violence économique.
On débute le...
Débute le quiz.
On a plusieurs situations. Par exemple, monsieur accompagne toujours madame au rendez-vous. C'est un signal d'alerte. Madame plaisante avec l'interlocutrice, il n'y a rien à signaler. Monsieur coupe systématiquement la parole à madame. C'est un signal d'alerte. Monsieur a un comportement agressif, c'est un signal d'alerte.
Et on voit bien que parfois la frontière, elle est vraiment tenue. Parce que sur le cas numéro 1, monsieur accompagne toujours madame au rendez-vous. Là, la subtilité, elle est bien dans le « toujours ». Parce qu'on a parfois, dans nos caisses agences, des couples, ils viennent toujours ensemble. Et c'est normal, c'est un couple. Et donc, c'est pas que monsieur accompagne toujours madame au rendez-vous, mais si en plus il est agressif et qu'il coupe la parole à madame, là, clairement, je pense que là aussi, il y a une addition de faits qui doivent alerter.
Oui, c'est ça, il faut bien prendre en compte la globalité de la situation.
Et là, après, on a quand même une deuxième occasion de parler d'autres situations, avec madame remplace son compte personnel par un conjoint, c'est un signal d'alerte. Madame dispose de moyens de paiement à son nom, c'est ok, il n'y a rien à signaler. Monsieur réalise des virements récurrents depuis le compte bancaire des enfants vers son compte personnel, c'est un signal d'alerte. En moyenne, les victimes elles vont réaliser 7 allers-retours dans la relation avant de quitter définitivement leur partenaire violent. Donc, c'est pas parce qu'au final, elle a demandé de l'aide à quelqu'un ou ça a été identifié que la victime va partir. En revanche, savoir que nous, on met à disposition un compte bancaire avec ouverture simplifiée, la protection du domicile, elle sait que c'est possible et ça lui permet de cheminer pour préparer son départ.
Et du coup, nos conseillers, ils auront jusqu'à la fin de l'année 2026 pour suivre cette formation en ligne.
On va la déployer cette année, ouais.
Ouais, ok.
Un grand merci, bonne soirée, à bientôt.
Après une séparation, le niveau de vie des femmes baisse en moyenne de 22%, c'est 3% pour les hommes. On a rendez-vous avec Héloïse Boll,
dans le centre de Paris. Elle a créé avec le collectif Les Glorieuses le baromètre des violences économiques. Et Loïse Boll dirige aussi le cabinet de conseil financier Oseille et compagnie.
Je fais deux types de formations, j'en fais en ligne et en présentiel. Et c'est des ateliers en fait en petits groupes. On apprend les bases de l'investissement, les grands équilibres dans un patrimoine. On parle d'immobilier, on parle de crédit, on parle des impôts. Toutes les choses qu'il faudrait savoir pour comprendre ce que raconte sa banquière ou son banquier. Et puis, de temps en temps, pour répondre un peu à des gens qui ont un avis sur votre argent. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont un avis sur la façon dont les femmes devraient gérer leur argent. Et les avis non sollicités sont très, très nombreux. La motivation pour venir aux ateliers, en fait, c'est de se former, c'est de comprendre pour se construire une autonomie financière.
Qui sont les personnes qui viennent vous voir ? J'imagine que c'est un certain milieu, un certain profil quand même.
Alors, c'est majoritairement des femmes qui ont entre 25 et 65 ans. Des infirmières, des enseignantes, des médecins, c'est très vaste et ça ne se cantonne pas à des gens qui ont des hauts revenus.
Est-ce qu'il y a des choses à regarder tout au long de sa vie, de sa carrière ?
Alors les premiers conseils, ils vont vous paraître terriblement bateaux, mais c'est faire très attention à garder des revenus. Donc prendre un congé parental, passer à temps partiel, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vous privent de vos revenus d'aujourd'hui, qui diminuent les cotisations sociales pour votre retraite, donc qui ont aussi un effet sur vos revenus futurs. Et puis, évidemment, la première des choses, c'est d'avoir un compte à son nom, de pas tout mettre sur le compte joint, de comprendre quand on est deux, comment fonctionne l'organisation financière du couple. Quand on n'a pas les mêmes revenus, partager les dépenses à 50-50, c'est inéquitable parce que celui ou celle qui a les gros revenus peut épargner et celui ou celle qui a les petits revenus pédale derrière pour suivre le train de vie souvent dicté par celui qui a les gros revenus et n'a pas d'argent pour épargner ou finit, c'est moi, dans le rouge, ce qui est encore plus préoccupant. Donc il faut fuir le 50-50 et puis il faut s'impliquer. Il faut faire très attention à ne pas se dessaisir du peu de pouvoir financier qu'on a.
Pour vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre du privé ou c'est aussi une question de société ?
C'est un sujet qui est éminemment politique, en fait. On a une fiscalité, un système fiscal qui pénalise les femmes. On a eu 6 ans de prélèvement à la source avec un système qui était un système de taux de prélèvement moyen qui faisait qu'en gros, les femmes payaient les impôts de leur mari sans s'en rendre compte. Il a fallu quand même 6 ans depuis le début du prélèvement à la source pour se débarrasser de ce taux moyen par défaut. Donc on a une société qui défend assez mal les intérêts financiers des femmes. Et les pouvoirs publics devraient être très vigilants. Pour le moment, il y a assez peu de réglementation et assez peu de lois et assez peu de textes. Donc malheureusement, dans une société qui défend deux fois moins bien nos intérêts et dans une société où on a deux fois moins de revenus et où on gagne deux fois moins d'argent, il faut qu'on soit capable de défendre nos intérêts avec 4 fois plus de vigilance. Et parfois, défendre nos intérêts, ça passe par des conversations pas très agréables, ça passe par montrer les crocs et c'est pas grave.
La violence économique, l'autre violence faite aux femmes. Un reportage de Mathilde Dehimy avec Clément Vuillet à la prise de son.
France Inter, Interception.
Mettez-vous dans la peau d'une femme afghane qui essaie de circuler dans son propre pays. Parce que dit comme ça, ça paraît fou, les Afghans découvrent le tourisme. Ils n'ont pas le droit à la musique, pas le droit aux jeux de société, pas le droit de se retrouver entre amis, garçons et filles, mais ils ont le droit de visiter leur parc naturel. Encore plus fou, Les Occidentaux visitent l'Afghanistan, c'est permis. Puisqu'ils sont non musulmans, ils échappent même aux règles ultra strictes imposées par les talibans, y compris le code vestimentaire des femmes. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les talibans aussi voyagent. Ils visitent même des lieux qu'ils ont eux-mêmes détruits, comme la vallée des Bouddhas de Bamiyan, où nous allons nous arrêter. Une dernière chose, avant d'entrer dans le reportage de Solène Chalvon-Fioretti et Marianne Getty, qui a été tourné en micro-caché, puisque les journalistes, eux, ne sont pas les bienvenus. Est-ce que les femmes profitent aussi de leur pays? Faut-il vraiment poser la question?
Alors là, autour de nous, c'est vraiment magnifique. Il y a d'abord le lac, avec des montagnes argentées qui tombent à pic dans l'eau turquoise, des pédalos en forme de cygne rose et bleu, et puis ces jeunes hommes qui plongent, qui s'amusent. Plus loin à gauche, là sur la rive, on voit qu'il y a un groupe de jeunes filles un peu cachées, au visage couvert, qui ont réussi à se frayer un passage, même si le lac leur est interdit, comme tous les parcs nationaux. Et d'ailleurs, il y a un adolescent là qui les a vus et qui vient de les prendre en photo.
Efface ces photos, toutes les photos des femmes là. Allez, vite, tu vas nous causer des problèmes.
Qu'est-ce qui se passe?
Cet idiot a pris des photos juste devant leur poste d'observation. Ils vont débarquer maintenant, c'est sûr.
En fait, l'homme s'énerve parce qu'au-dessus de nous, il y a une... comme une cahute sur laquelle est inscrite « Bureau de la répression du vice et de la promotion de la vertu ». Et cette cahute, elle est surmontée d'une caméra. Et bah, derrière cette caméra, ceux justement qui regardent les images, c'est les agents de la police religieuse. Et apparemment, quand ils vont voir qu'il y a des hommes ici qui prennent des photos de femmes, ça risque de mal se passer. D'ailleurs, les gens s'agitent et il y a déjà des familles qui s'en vont devant nous par peur de croiser leur route.
Les agents de vice et vertu sont là, partez vite.
Ils renvoient toutes les femmes. Attention, les agents arrivent à l'entrée du site.
Alors là, effectivement, on aperçoit à 30 mètres un premier agent qui porte une blouse blanche, comme une blouse d'infirmier. C'est vraiment la marque visible des agents de la répression du vice ici. Et manifestement, on va essayer de s'approcher, mais il a l'air de bloquer le passage à toute une famille avec des personnes âgées, des enfants, et une mère, une maman.
Vous êtes étranger? Vous venez d'où?
On vient de France.
Messieurs, dames, pour vous, c'est fermé. Vous ne pouvez pas aller prendre des photos ici. Vous, les étrangers, vous pouvez passer.
Mais ça me rend triste pour cette femme. Quelle est la différence entre elle et nous? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas voir le lac, elle aussi?
Occupe-toi de tes affaires.
Vice et vertu, c'est synonyme de vérité, non? Une vérité simple à comprendre pour un gars comme moi. Alors dis-moi, où est-ce que c'est écrit dans l'islam que je ne peux pas emmener ma femme au lac?
Moi, je ne fais que suivre les ordres.
Donc tu ne peux pas nous l'expliquer. Et ça te donne quoi comme droit d'avoir cette tenue?
Ce que tu fais est illégal. Tu cherches les ennuis ou quoi?
Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour voir ce lac? Il faut qu'on utilise la force?
Si tu veux utiliser la force, vas-y, on verra où ça mène.
Vous êtes des spécialistes de la religion ou pas du tout?
Écoute-moi, mon frère, c'est un ordre.
Je veux que tu m'expliques ce qui, dans notre attitude, est contraire à la loi islamique.
Je te le répète, c'est contraire aux règles.
Ne mélange pas l'islam à tes ordres arbitraires.
On doit suivre l'islam. On ne laisse passer aucune femme, c'est comme ça.
Alors là, le ton monte, et comme nous... on a caché notre micro, on n'a pas très envie d'être fouillé si ça dégénère. Donc on va s'éloigner. On est à quelques kilomètres du lac, toujours dans la région de Bamiyan, et on s'approche vraiment du site emblématique de la région, qui est la vallée dite des Bouddhas. Même si les Bouddhas ont disparu de la falaise et que, à la place, au-dessus de nous, là, il y a deux grandes niches de forme humaine qui sont creusées, à côté d'une multitude de grottes troglodytes. Je dirais que ça fait que la niche, elle fait 30 mètres de haut. Alors l'homme qui vient de parler près de nous, là, il a parlé en langue pachto, qui est la deuxième langue de l'Afghanistan et la langue principale des talibans. Et d'ailleurs, avoir son turban et celui de ses amis, ce turban noir, on peut imaginer qu'ils font partie du mouvement, d'autant que deux d'entre eux sont armés. Mais là, ils ont l'air d'être surtout présents pour visiter le site et même pour en apprendre sur les Bouddhas.
Je me demande comment ils ont construit ça à l'époque. C'était qui ces gens capables d'un tel travail? Oui, ça fait presque peur. C'est immense.
Alors, ça peut paraître un peu paradoxal de sentir leur admiration ou en tout cas leur intérêt parce que les deux grandes statues ont justement été dynamitées par les talibans en 2001 lors de leur premier régime. Vous ne trouvez pas ça triste que les gens ne puissent plus admirer cette statue?
Non, les gens venaient idolâtrer cette statue gigantesque. Donc c'était un péché. On est parti d'Orsgan. On a parcouru 2000 km. Personne ne nous a arrêtés, personne ne nous a demandé où on allait ni pourquoi. Et partout où on passe, tout le monde nous respecte. Et maintenant, on est content. Tous les Afghans vivent sous le même drapeau blanc, dans la paix.
Et maintenant que vous avez terminé votre djihad, qu'est-ce que vous avez comme rêve?
On n'a pas d'autre rêve. Mon rêve, c'était ça, bâtir un régime islamique. Maintenant, on veut être au service de notre peuple dans tous les domaines. On veut construire des routes dans tous les districts et des parcs.
Alors là, je m'approche d'un autre groupe de visiteurs. Bonjour. Mais il y a une femme là-bas?
Oui, elle a le droit d'être là si elle ne rentre pas dans les grottes.
Mais pourquoi?
C'est l'ordre du gouverneur Abdullah Saradi. C'est pareil pour toutes les femmes. Elles peuvent s'approcher à condition de regarder de l'extérieur.
C'est parce qu'ils ont peur que les hommes et les femmes fassent des choses inconvenantes dans les grottes?
Oui, c'est ça.
Zut, alors là, il y a un pick-up qui arrive avec des hommes en tenue militaire. Et ça, c'est vraiment l'uniforme des agents du renseignement qu'on appelle en Afghanistan le GDI.
Hello. Good, and you?
How are you?
Marianne.
Sol, Marianne, and aussi.
C'est quoi votre métier?
Mon métier?
We are tourists.
Je suis touriste. Je vais au lac.
Arrête de faire des vidéos, toi. Ça, c'est ta voiture?
Oui.
Ok, from the car.
Va t'asseoir dans ta voiture.
Alors là, on est fermement prié d'aller nous présenter au bureau du gouverneur pour obtenir une autorisation de circuler dans la région. On espère juste qu'ils vont pas nous googliser parce qu'on n'a pas pu venir en Afghanistan avec un visa de journaliste. Il nous a été systématiquement refusé. Donc on a un visa touriste. Espérons que ça passe. Alors là, on traverse des bureaux et à gauche, au fond d'une grande pièce, il y a le gouverneur de Bamiyan, le gouverneur taliban. Il est très reconnaissable parce qu'il lui manque un œil. Il est habillé tout en blanc avec un grand turban noir. Et manifestement, il ne veut pas lever les yeux vers nous, mais il veut nous voir. Donc on va dans son bureau et on va cacher le micro.
Hello, hi, how are you?
Salam.
Bonjour. Tous les étrangers qui viennent ici, nous protégeons leur honneur, nous veillons à leur sécurité et nous les aidons aussi à rejoindre leur destination. Parfois, nous veillons sur eux pendant la nuit. Parfois, ils s'égarent dans la forêt et nous les reconduisons jusqu'à l'hôtel parce que dans la forêt, il y a des insectes, des scorpions, des serpents et ils pourraient être blessés. Nous respectons les étrangers, mais ça ne veut pas dire que nous avons confiance en eux.
Monsieur le gouverneur, j'ai une question. Pourquoi vous refusez de nous regarder alors que moi, je suis complètement couverte de la tête aux pieds et en plus, j'ai l'âge d'être votre fille.
En islam, regarder son épouse, sa mère, sa sœur, ses tantes ou sa fille ne pose aucun problème. Mais selon la charia, il m'est interdit de vous regarder, même si vous étiez ma cousine. Car le Coran ordonne que les femmes ne regardent pas les hommes qui ne sont pas des proches parents et que les hommes ne posent pas leurs yeux sur des femmes qui ne sont pas des proches parentes. Dans la charia, la femme jouit d'un grand respect. En islam, la femme est comparée à une pierre précieuse. Plus une pierre précieuse est protégée et couverte, plus elle devient précieuse et respectée. Les choses précieuses ne sont pas exposées à tout le monde.
Alors là, on vient de sortir du bureau du gouverneur et on se dirige vers un hôtel. C'est très très beau, c'est une grande maison traditionnelle afghane avec plein d'oiseaux, une volière avec des perruches, des colombes blanches. Face à nous, à quelques mètres, il y a un couple d'occidentaux qui retape un van. On dirait qu'ils fixent une moustiquaire avec des Afghans qui leur filent un coup de main. C'est assez étonnant parce qu'elle, elle a les bras complètement nus. Et elle n'est pas couverte. Elle ne porte pas de voile. On va aller se rapprocher d'eux.
Can you tell us what you guys are doing here and what's this big greenhouse behind you? You can answer in French, c'est encore plus facile, mieux pour nous si ça.
Ouais, c'est pas grave. Hein. Je parle un peu le français parce que ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en France, mais
d'accord,
c'est bon. Ouais, du coup, il y a 3 ans, plus ou moins, on a commencé la construction d'un camping-car. Mm-hmm. Et l'idée, c'était de partir depuis l'Angleterre jusqu'au Japon. Donc là, ça fait 2 ans, 9 mois qu'on voyage en camping-car. Et on a fait tous les pays du Balkan, l'Europe. Mm-hmm. Puis on est rentré en Turquie, la Géorgie, l'Arménie. Okay. Puis on est rentré en Irak, l'Iran et finalement l'Afghanistan. On est en train de nettoyer parce qu'on a fait hier, on est allé à Bandamir. Et il y a beaucoup de poussière, donc la poussière, elle a rentré partout. C'était complètement le bordel. On a un lit, on a la douche chaude, la douche, les toilettes, une cuisine, le chauffage. Et là, on fait le ménage, quoi.
Et il n'y avait pas d'appréhension de votre part ?
Ouais, bien sûr. Hein.
Conservative the country.
Ouais, on a dû faire beaucoup de recherches. Hein. Il ne faut pas venir en Afghanistan. C'est pas une destination de vacances, c'est une destination pour vraiment découvrir un pays et les gens. Donc on a fait beaucoup de recherches. C'est quand même 40 ans de guerre et il y a beaucoup de règles par rapport aux femmes. Je ne suis pas d'accord, mais c'est bien de venir rencontrer les femmes quand même et entendre leur histoire.
Et qu'est-ce que vous pensez de la situation ici ?
D'une certaine manière, on a le sentiment de légitimer ce gouvernement en venant ici. Quand on paye le visa, 100 dollars, c'est pas donné. Mais les peuples ne sont pas définis par leur gouvernement. Oui, on leur donne de l'argent. Et donc, d'une certaine manière, on alimente leur cause et on suit leurs règles. Mais on n'est pas là pour eux. On est là pour rencontrer les gens et découvrir le pays.
Ce reportage, c'est l'un des récits d'un documentaire exceptionnel signé Solène Chalvan-Fioretti et Marianne Getty, Le pays taliban, que vous pourrez voir ce soir sur France 5 dans Le Monde en Face, présenté par Aurélie Casse à 21h05. Et c'est une promesse, le film est scotchant de bout en bout. À la production d'Interception cette semaine, il y a Antoine Gignot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Charles de Silla. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Samy Messaoud pour la documentation musicale et c'est Maxime Goudard et Théo Delobader qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.